Vous dites qui vous êtes comme ça et notamment ça.
Excusez-moi, Frédéric Comtois, agent de l'ONU de la région Grenoble. Sur la convention citoyenne, j'ai compris que finalement il y avait un pari de l'acceptation des propositions à partir de la représentativité des citoyens qui serait tiré au sort. Pour autant, vous avez beaucoup axé sur le fait que c'est aussi l'apprentissage collectif qui a fait progresser ensemble les citoyens tirés au sort. Du coup, est-ce que la capacité de la population à l'échelle nationale à recevoir ces propositions va être à la hauteur? Qu'est-ce qui est prévu en la matière pour faire une sorte de SAV, de digest de ce qui est proposé? Avoir le même processus d'appropriation.
On va prendre ces trois questions pour démarrer. Ouais.
Comme ça.
Oui, c'est bon, allez. En parlant bien fort.
Donc, bonjour Isabelle Le Mercier de CNDT depuis de la Loire. Alors, je vais démarrer en disant que je ne suis pas complètement d'accord avec sur la déconnexion des syndicats avec leur base. L'expérience de deux actions qu'on a menées dernièrement autour d'une grande enquête par mon travail et par mon retraite montre d'une part que voilà, on s'intéresse à ce que disent les salariés et les résultats des élections dans les entreprises montrent aussi qu'on a des gros taux de participation. Donc voilà deux exemples qui illustrent qu'il ne faut pas tout mélanger. Et du coup, l'expérience qu'on a m'amène à une question sur le participatif, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole des gens et comment l'État ou les directions les administrations prennent en compte ce que disent l'expertise citoyenne ou l'expertise des travailleurs, qui, je pense, du fait qu'elle n'est pas suffisante, est aussi un frein à la démocratie.
Oui.
Bonjour, Sylvie Banoun, c'est conseil général de l'environnement et du développement durable, et un service d'inspection contre l'évaluation. Moi j'avais deux choses. La première chose, c'est que je voulais réagir aussi sur ce que vous aviez dit en introduction en parlant des bonnets rouges et des gilets jaunes. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens mobilisés sur une question, et je reprends l'exemple des retraites, que pour autant ça fait bouger. Tout se passe comme si il y avait d'autres éléments, et en particulier le fait que ce ne soit pas organisé, qui influait sur la capacité du mouvement à se faire entendre. Ce qui est quand même un peu dérangeant par ailleurs. Et la deuxième chose, c'est simplement, je me fais le porte-parole de nos collègues qui n'ont pas pu venir. Je lis la question. Eu égard à la complexité du sujet et dès lors au parcours et culturation qu'ont suivi les citoyens, conféré notre exemple du journalisme APQR, parcours dense et riche, délibératif, considérez-vous qu'ils sont encore représentatifs de la population à l'issue des quelques semaines recouvrant les différents ateliers? Qu'il conviendra certainement plus que dans les comparables que vous donnez, non pas de soumettre les propositions de la Convention, mais surtout d'avoir un effort conséquent de pédagogie, d'éducation. Je pense que on n'est pas par hasard dans la même promo. Hein. Quand l'absence de cet effort, le risque de divergence entre le consensus de la Convention et le suffrage démocratique est peut-être fort.
Thierry, pour commencer.
Oui. Je ne réponds pas sur les Pays de la Loire, la CFDT, mais pour te filer un coup de main, je connais bien la CFDT. Et évidemment, dans les Pays de la Loire, elle est particulièrement forte. Je vous rappelle que c'est de là que vient Laurent Berger. Cela étant dit, sur l'acceptabilité et le SAV, poser une question qui est en gros, est-ce que les propositions de la Convention serait mieux acceptée parce qu'elles sont portées par les gens qu'on a là devant nous, ou est-ce qu'elles seront mieux acceptées parce qu'ils ont mobilisé de la connaissance pour s'y intéresser et essayer de les rendre acceptables? Je ne sais pas. Je pense que c'est un sujet très compliqué de savoir comment les bénéfices dont peut profiter 150 personnes pourraient concerner des millions d'autres.
c'est une difficulté qu'on n'a pas résolue. Et cette procédure ne résout pas tout. Je crois que lorsque la Convention fera ses propositions, nous aurons quelques semaines derrière pendant lesquelles il faudra faire en sorte que la société s'empare de ces sujets, que l'espace public s'empare de ces sujets, que la délibération passe à une échelle plus grande, peut-être plus confuse aussi. Mais si cet effort-là n'est pas fait, évidemment, il manquera un maillon. Nous, on a fait, je ne suis pas étendu là-dessus, mais l'exercice, on l'a fait à ciel ouvert. À part sur les deux dernières sessions où on protège les propositions de la Convention de façon à ce que le débat politique ne se noue pas avant qu'elles soient publiées et qu'elles soient décidées, surtout qu'elles soient votées. Tout le reste, on l'a fait à ciel ouvert, de façon à ce que chacun puisse participer, contribuer. Il y avait des formes de contribution à la fois personnelles et pour les personnes morales. On a invité beaucoup de journalistes. Tout ça a été filmé, il va y avoir un documentaire. On a voulu faire en sorte que le débat dans les murs crée un débat hors les murs. On n'est pas complètement arrivé, mais on a vraiment joué de malchance, parce que je ne sais pas, la réforme des retraites ne nous a pas aidés. L'attentat à la préfecture de police non plus. Alors là, le coronavirus, c'est le pompon, comme disait ma grand-mère. Donc c'est pas une affaire simple, le SAV. L'autre question, je ne reviens pas sur ce que vous dites sur la mobilisation, est-ce qu'elle est efficace par sa forme ou par le nombre, ce n'est pas mon débat. Moi, je voulais juste signaler deux manifestations de dissensus sur les questions climatiques. Parce que c'était deux politiques climatiques importantes, l'écotaxe pour les européens et puis la taxe carbone. Donc ça, c'est pas ma guerre. En revanche, est-ce qu'on est encore représentatif après 20 jours de travail, des semaines de mobilisation, etc. Au premier jour, on ne l'est pas, de toute façon. Représentatif au sens statistique du terme, il ne faut pas 150 personnes, il en faut pour 1000. Donc il n'y a pas de représentativité au sens statistique du terme. Il n'y en a jamais eu, même pas au premier jour. La question que vous posez, c'est est-ce que la fraîcheur, d'une certaine façon, de l'échantillon fan au bout de 3 sessions, 4 sessions, 5 sessions, etc. Peu m'importe, en réalité, parce que ce qui compte, c'est que ces gens-là aient pu faire ce parcours-là. Et leur crédibilité, leur légitimité tient au fait qu'ils étaient ceux-là au début et ils étaient devenus ceux-là à la fin. Je crois que c'est là qu'est la valeur de leur travail, de leur production, et c'est ça qu'il faut dire et mettre en scène. Ce qu'ils ont fait, vous pourriez le faire. C'est ça le message. Voilà. Ça pourrait être vous. Vous savez, fondamentalement, la démocratie, c'est le régime qui permet à n'importe qui d'exercer les fonctions publiques, les offices de magistrature ou les fonctions décisives. C'est pour ça que le tirage au sort est une méthode compétitive. C'est que c'est le moyen le plus sûr d'avoir n'importe qui. Alors ça peut être très dangereux selon les pouvoirs qu'on confère à la personne tirée au sort. Là, en l'occurrence, c'est pas c'est un pouvoir de proposition. Je tremblerais à l'idée, vous avez fait la troisième saison de Baron Noir.
Oui.
Voilà. Je voyais dans le sourire, madame, une ombre de Baron Noir.
Ouais.
Si on devait confier des fonctions exécutives à des gens tirés au sort, ça poserait d'autres problèmes. On est en droit de s'interroger sur ce que pensent les gens, leurs valeurs, etc. Là, on ne parle pas de ça. Mais quand même, la démocratie, à la fin, c'est le régime de n'importe qui. Je l'ai dit en plaisantant dans un débat avec Dominique Schnapper, n'importe qui, c'est le prénom de la démocratie. Pas son nom de famille, après, il y a la démocratie française, la démocratie. Et le prénom, c'est n'importe qui, et c'est n'importe qui partout. Et c'est ça qu'on montre aussi, c'est ça qu'on rappelle, parce que l'élection, elle a traditionnellement, depuis la Florence et la Venise du XVe siècle, l'élection, elle fabrique des oligarchies. C'est comme ça. Elle donne le pouvoir à des catégories de gens qui sont à peu près toujours les mêmes. Ils ne pensent pas à la même chose, hein, mais c'est toujours les mêmes catégories. Et on en vient finalement à enfermer la politique dans un club. Moi, je ne suis vraiment pas populiste, je suis un adversaire résolu de ces mouvements-là, mais ils nous disent quelque chose de vrai quand ils utilisent ces mots-là. Faut pas être... Ils ont des tares, ils ont des défauts, et nous en avons aussi. Et notre principal défaut en phase 2, c'est de ne pas savoir entendre ce qu'ils nous disent de vrai. Et ça, c'est vrai, malheureusement.